With TV, you can't even think of something different. With movie,
da un po' di tempo sento dentro di me una strana agitazione.
Une petite médiction.
Michel, le plus parlé de qui elle est? Qui elle est-il? Bon? Donc, vous savez qui est-ce?
Sous, mais t'as quoi?
De qui?
Qui est Kabin Mitamni? Pourquoi ils sont bons?
Magazine spécial en direct du Théâtre National de Marseille La Criée, où se déroule depuis aujourd'hui et jusqu'à lundi 7 juillet prochain le FID Marseille, 19e édition du Festival International du Documentaire, dont la grenouille se fera largement l'écho pendant les 6 jours qui viennent sur son antenne, pour amplifier à sa façon les perspectives de regard et de perception sur le monde que couvre chaque année des films et des cinéastes invités par ce festival de cinéma. Sont présents autour de ce plateau de ce premier magazine Jean-Pierre Rem, délégué général du festival, Jean-Pierre Gorin, cinéaste, professeur de cinéma à l'université de San Diego. Il a participé à la fin des années 60, début des années 70 au groupe Diga Vertov, qu'il a fondé même avec Jean-Pierre Godard. Alors ça c'est pas mal, Jean-Pierre Godard et quelques autres. J'ai dit Jean-Luc quand même. Circa Müller est également parmi nous. Elle est programmatrice à l'Institut Images et Médias, c'est ça?
Non, j'ai programme des films et des médias. Donc.
D'accord.
Pas d'institut.
Et elle est la programmatrice de l'écran parallèle Traduire l'Europe. Jean-Pierre Gorin, quant à lui, a programmé un écran qui s'appelle L'Amérique vue par Jean-Pierre Gorin. Nathalie Guimard est également parmi nous. Vous la connaissez certainement si vous écoutez La Grenouille régulièrement. Elle participe à l'émission Un caillou dans la chaussure. Elle fait partie de l'association Photokino qui organise un festival tous les ans qui s'appelle L'Aterna Magica. Et pour la troisième année, elle programme un écran parallèle également au sein du Festival international du documentaire qui s'appelle Les Sentiers. Pendant ce magazine, nous aurons également des chroniques signées de Jean-Marc Lamour, qui est allé voir un film réalisé par la fille de Robert Kramer. Xavier Thomas, qui lui est allé voir un film qui s'appelle Europe, je crois. Une série de films qui s'appelle Europe. Juliette Guérin, elle, a préparé une chronique technique sur le festival. Voilà, donc on entendra tout ça pendant toute cette heure. Jean-Pierre Rem, cette 19e édition du FID se tient dans un contexte de grande inquiétude des artistes et des acteurs culturels vis-à-vis de la redéfinition de la politique culturelle de l'État en France. Alors, avant de parler plus précisément de cette 19e édition, est-ce que vous partagez ces inquiétudes?
Les inquiétudes, elles ne concernent pas que la culture. Je pense qu'effectivement, c'est un espace qui est particulièrement sensible, mais je crois que l'inquiétude, elle est plus globale. Mais après, je veux dire qu'il y a eu un vote, les gens ont émis des choix. Il faut trouver ensuite... la raison de ces choix et j'ai pas de choses particulières à dire et en outre je pense que les inquiétudes elles étaient déjà là avant.
Pour cette 19e édition du Festival international de documentaire à Marseille, vous avez souhaité proposer à Tony Negri, qui est un philosophe italien qui a écrit un livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Empire, et qui est connu aussi pour ce qu'il écrit sur les multitudes. Vous avez choisi donc de lui proposer d'être président du jury de la compétition internationale, ce qu'il a accepté. Que signifie pour vous le fait d'inviter Tony Negri à être président de cette compétition?
Alors d'abord, je ne voudrais pas que l'arbre cache la forêt. Il y a 10 jurés qui sont invités. La présidente du jury national, c'est Ito Barada, une artiste marocaine, photographe. Alors c'est clair que, disons, le nom de Tony Negri, il emporte avec lui une histoire de l'activisme qui ne m'est pas indifférente. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui représentait un morceau de l'histoire, de notre histoire européenne, dans des méandres, dans des complications. Mais je ne veux pas en faire le drapeau, je ne veux pas l'utiliser moi comme drapeau. S'il est là, c'est avec d'autres personnalités, des gens qui sont plus proches du cinéma, mais d'autres aussi, comme Marianne Alphand, par exemple, qui est une écrivain. Et c'est cette diversité des regards qui m'intéresse, moi, la façon dont les gens regardaient le monde. Voilà, donc le regard de Tony Negri sur le monde, évidemment, ça compte pour moi, mais les 9 autres jurés tout autant.
Mais comment se passe la composition des jurys? Quelles sont vos façons de composer les jurys?
Ça, c'est une alchimie, c'est un peu délicat. Je ne sais pas très bien quoi vous répondre. On essaye de répartir entre hommes et femmes, entre provenances culturelles, de façon à faire des équilibres. Mais la plupart du temps, ce sont des gens que je ne connais pas du tout, dont je ne sais pas comment ils vont s'entendre ensemble. C'est assez délicat. Et dans le cas de Tony Negri, par exemple, c'est une demande qui a été faite, qui devait être faite il y a plus d'un an, parce qu'il a un calendrier très chargé. Mais c'est difficile de répondre à votre question, parce que c'est presque comment vous expliquer aussi comment on choisit les films. J'aurais du mal à vous dire ça.
Quels sont les rapports de Tony Negri avec l'art, et plus particulièrement avec le cinéma?
Avec le cinéma, je crois qu'il a confessé lui-même en avoir très peu. Il a eu une réponse très modeste en disant qu'il était flatté de l'invitation, mais qu'il avait peur de manquer de compétences. Moi, je lui ai dit que c'était justement cet écart-là qui m'intéressait. Sachant par ailleurs que en prison il a eu le temps de relire par exemple Léopardi et de faire tout un ouvrage critique qui sera présenté au CPM d'ailleurs après-demain. Donc son rapport à l'art, c'est un rapport à la poésie, mais la poésie entendue au sens large, au sens d'une pratique, hein, c'est ça que ça veut dire la poésie, c'est la fabrication. Donc je pense qu'un philosophe qui s'intéresse à la fabrication affranchie, ou en tous les cas qui essaye de s'affranchir, ça me paraît déjà une chose d'importance. Oui.
Quels sont les axes sur lesquels vous avez construit cette 19e édition du Festival du documentaire?
Encore une fois, vous savez, ce sont les rencontres avec les films qui ensuite se combinent et finissent par faire une cohérence, en tout cas j'espère une cohérence. Donc d'une part, il y a les films en compétition, ça c'est des rencontres qu'on souhaite. Quand on voit 3000 films, on en retire une trentaine, un peu plus d'une trentaine, c'est des rendez-vous qui sont souhaités avec inquiétude. Et puis pour le reste, c'est il y a beaucoup d'intuition. Que ce soit avec Jean-Pierre, avec Circa, avec Nathalie et Vincent, avec Cyril Béguin aussi, c'est des propositions, puis on retravaille. Il n'y a pas, si vous voulez, une volonté au départ de fixer quelque chose. Là encore, c'est la rencontre avec les films, avec Circa Muller par exemple, Traduire l'Europe. Donc presque tous ces films, à part ceux de Dementas Narcivicius, sont des inédits. Et on avait plein de films de qualité. Il a fallu choisir. Donc non, c'est pas des actes. Enfin, évidemment, mais elle en parlera, je pense, elle-même. Mais Traduire l'Europe, c'était déjà un filtre. Hein, cette idée de dire l'Europe, c'est la traduction et pas la frontière.
C'est un programme qui est soutenu, Traduire l'Europe, par la Saison culturelle européenne, qui est une manifestation nationale.
Oui, en fait, qui nous ont sollicité en disant est-ce que vous avez une proposition à nous faire. Donc voilà, je leur ai proposé cette histoire de traduction là.
Donc on parlera en détail des écrans parallèles qui figurent dans cette 19e édition du Festival international documentaire. J'ai oublié de signaler tout à l'heure en introduction que peut-être Cyril Béguin, qui a programmé un écran autour de Robert Kramer, nous rejoindrait en cours d'émission, parce que là il est en sortie de film, je crois, et il anime une agora avec les spectateurs du film. Cette année, dans cette nouvelle édition, il n'y a pas de prix son, Jean-Pierre?
Non, en effet, on en parlait hier avec avec Jean-Pierre, je crois. Ce prix, il était doté, il était en accord. En fait, c'était un partenariat avec Grimm, d'une part, et d'autre part, la SACEM. Et la SACEM nous a expliqué que, vu ses problèmes budgétaires, il ne souhaitait pas reconduire le prix. Et que je ne souhaitais pas, moi, de mon côté, le doter de nous-mêmes, parce que je trouvais ça injuste. Et qu'il n'est pas question de l'abandonner. Donc, l'année prochaine, on va se mettre en quête de partenaires. Parce qu'il me semble que la question, mais je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup vos auditeurs, mais que la question que posait ce prix, c'était que pour la SACEM, c'était difficile de l'exploiter dans la mesure où ce n'était pas un prix donné à la BO, ce n'était pas un prix donné à une qualité technique du son, mais c'était plutôt comment le son intervient dans un film, hein, à tel point que j'expliquais en tout cas aux juristes qu'ils étaient tout à fait libres de primer par exemple un film muet, dans la mesure où s'ils pensaient que c'était le défaut de son était finalement la chose la plus intelligente, ils pouvaient le faire. Donc je pense que du coup ça pour la SACEM c'était un peu difficile, je ne sais pas.
Donc à 20h30 ce soir, ça va être l'inauguration du festival avec un film d'ouverture qui s'appelle Le silence avant Bach de Pere Portabella. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce film et sur ce cinéaste ?
Pere Portabella, c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui a un parcours tout à fait passionnant parce qu'il a, c'est un homme politique, on parlait de Tony Negri, hein, mais lui aussi c'est un homme politique qui a fait partie des gens qui ont rédigé la constitution après la démocratie naissante en Espagne, qui a été producteur aussi. Il a produit Buñuel, José Luis Guérin, et qui a fait des films. Celui-ci, c'est une espèce d'hommage rendu à la musique en général, même si c'est la figure de Bach qui pointe dans le titre. Et je crois que c'est un film autour des puissances de la musique, c'est cette étrange puissance qu'a la musique, comme d'autres arts d'ailleurs, mais en tous les cas qui fascine certainement le cinéma, à perdurer dans le temps. C'est, la musique, c'est à la fois du temps, comme on le sait, et comme l'est le cinéma, mais c'est aussi voilà, comment se fait-il que cette musique, elle nous arrive encore aujourd'hui à nous bouleverser. Voilà. Donc ce film, il essaye de montrer en quoi la musique, c'est du mouvement, et un mouvement qui nous arrive.
Et pourquoi vous avez voulu faire l'ouverture du festival avec ce film-là ?
Parce que ce que je viens de vous dire. Parce que je crois que justement, si on ne prend pas le cinéma comme un produit de consommation, si on le prend comme une expérience qui n'est pas simplement dans l'histoire, mais qui est un morceau d'histoire, je trouvais que ce film était exemplaire en ce sens-là. Et puis en plus, vous le verrez, il a aussi une façon de mélanger le documentaire et la fiction, puisqu'on se retrouve en plein 18e siècle avec des gens avec des perruques, et puis on est aussi devant quelqu'un qui fait le guide à Leipzig pour expliquer où a vécu et comment Bach. Voilà, donc c'est un film aussi, je trouve, avec beaucoup d'humour.
Merci Jean-Pierre Rem. On fait une première pause dans ce magazine spécial en direct du Théâtre National de Marseille, La Criée, à l'occasion du Festival International du Documentaire. On écoute un extrait du dernier Albert Marker qui s'appelle Travaux pratiques, et on se retrouve juste après avec Jean-Pierre Gorin.
La France sur quatre cousins, des antidépresseurs. La France sur deux regarde la télé en mangeant.
Les accidents de bricolage, de jardinage, l'utilisation malencontreuse de produits toxiques. Je sais quoi encore, moi. J'en étais où ? Un Français sur 5 a peur. Un Français sur 2 a peur de la peur. Un Français sur 8 tient un journal intime. Un Français sur 4 pense à la mort. Un Français sur 8 tente le suicide. Un de temps en temps réussit. Un Français sur 5 fait un don généreux. Il donne davantage avec l'âge. Un Français sur 6 vit seul. Un Français sur 4 est mort et plus du porteur.
La grenouille est en direct du Théâtre National de Marseille, La Criée, à l'occasion du Festival International du Documentaire. Jean-Pierre Gourin, vous êtes donc cinéaste, enseignant en cinéma à l'Université de San Diego. Vous avez fondé avec Jean-Luc Godard le groupe Diga Vertov à la fin des années 60, début des années 70. Vous étiez présent au FID il y a 3 ans, je crois, pour votre trilogie américaine, 3 films Poto et Cabengo, My Crazy Life et Routine Pleasure. Alors ceux qui avaient eu la chance d'assister à ces projections en ont certainement gardé un souvenir très content, je ne trouve pas le mot. Bref, et vous avez dû garder de bons souvenirs aussi puisque vous revoilà.
À Marseille, c'était assez simple. Alors j'ai, bon, ce qui est assez rare, c'est-à-dire qu'il y a les festivals où on est invité et on cherche à s'échapper toutes les 5 minutes, et puis il y a ceux où au contraire il se passe quelque chose. Alors j'étais au jury avec Olivier Cadio, on s'est entendu comme larron en foire, et puis on a vu beaucoup de choses, et puis j'ai rencontré Jean-Pierre à ce moment-là. Et à partir de ça, j'ai décidé d'intriguer comme un fou pour revenir, quoi.
Et vous alors, êtes arrivé à vos fins.
Et ça, ouais, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Mais ça, c'est d'une part parce que ce qu'il faut dire par rapport au FID, bon, c'est qu'il y a une Jean-Pierre noie le poisson toujours et il dit ah, je ne peux pas vous en dire, je ne peux rien vous en dire, mais il y a une politique de choix. Alors, et puis il faut se la,
Il faut se la découvrir parce qu'il faut, il est très malin. C'est pas un cuisinier qui annonce le plat, quoi. Et cette politique de choix, elle est rare dans les festivals. Et moi, elle m'a intéressé. Donc revenir, c'était aussi continuer une espèce de dialogue qu'on a eu sur cette notion assez complexe qui est le documentaire, quoi, qui est une notion qui se complexifie de plus en plus. Alors là, je suis arrivé à lui vendre Tocqueville, quoi. Mais en fait, la manière dont j'ai conçu la chose, c'est de me dire, je vais montrer des films qui étonneraient les Américains, c'est-à-dire des films que les Américains n'ont pas vus ou ont cessé de voir. Et il y a quand même, alors Ford, ils l'ont vu un peu. Mais Les Exilés, c'est un film qui a été fait par un type qui n'a fait qu'un seul film.
Honeymoon Killers aussi, pareil.
Honeymoon Killers, c'est un film, oui. Moi, j'aime bien les films des cinéastes qui ne font qu'un seul film et il est bon, quoi. Et puis, ils en ont pas fait de mauvais.
Ça suffit,
après.
Quoi.
Ouais. Et dans le cas d'Honeymoon Killers, c'est Leonard Castle qui est un type qui, en fait, est un musicien qui a enseigné l'opéra à Albany pendant des années. C'est aussi un film qui a la particularité d'avoir été commencé par quelqu'un qui a fait une carrière de cinéaste après, qui s'appelle Marty Scorsese. Marty a tourné 3 jours de Honeymoon Killer avant d'être viré par Leonard Castle. Et le film est aussi un film avec Oliver Wood qui est devenu un cinéaste, un directeur de photographie très connu.
Puis un acteur qu'on a retrouvé après dans French Connection.
Il y a Tony Bianco et puis... Vous verrez, quoi. Donc, cette idée, non pas de parler des États-Unis, parce que le propre des États-Unis, c'est vraiment d'être une formation comme ça, culturelle, sociale, qui n'a jamais pu complètement se dire, mais de voir ces films qui, à la fois, permettent de dire des choses autour, et puis aussi des films qui, pour moi, sont des définitions de pratiques cinématographiques, et en particulier de cette espèce d'échange que je pense être constant dans l'histoire du cinéma entre la fiction et le documentaire.
C'est l'Amérique vue par Jean-Pierre Gorin, c'est pas les États-Unis vues par Jean-Pierre Gorin.
Ça, on dit l'Amérique, ça c'est toujours le même truc. Ça vous me fait penser à ce monsieur que vous avez appelé Jean-Pierre Godard, mais qui s'appelle Jean-Luc en fait. Et bon, ça c'est un de ces trucs. L'insurgence, d'être insurgent. L'Amérique, c'est l'Amérique, hein, depuis Christophe Colomb, faut pas. Non, mais c'est intéressant d'en parler parce que. Généralement, moi, ce qui me frappe quand je suis aux États-Unis, ce qui s'écrit dans les journaux sur l'Amérique en Europe et en France en particulier, est complètement incohérent. Et ce qui s'écrit aux États-Unis, quand on a écrit sur l'Europe et sur la France en particulier, est aussi incohérent. Moi, j'ai cette espèce de position un peu impossible d'être entre les deux, de ne plus parler français complètement, de ne pas parler américain complètement. Donc, cette espèce de circulation est intéressante, quoi.
Vous proposez 7 films. Le plus récent, je crois, est de 2005 et les autres sont des films assez anciens. Je sais pas,
ouais. C'est-à-dire les plus modernes.
Voilà.
Ah, je veux dire, c'est des films qui sont d'avant la télévision, c'est des films de gens qui savaient construire du temps, de l'espace, pour qui un sujet doit pas toujours être filmé à la même distance, pour qui l'œil, ça doit être soumis à une gymnastique, et puis qui sont intéressés à montrer. Le grand truc du cinéma, c'était quand même de nous introduire à l'instant. Ce que c'est qu'un instant, ce que c'est que le drame de l'instant, ce que c'est que l'étendue du temps, etc., etc. Donc quand on regarde un film comme Pass the Gravy, qui est un film d'un metteur en scène américain qui est connu, mais pas tellement connu, qui est Leo McKay, c'est absolument sublime. Je peux garantir que des gens pisseront dans leurs culottes de rire.
Vous dites ça dans un festival où il y a à foison de films nouveaux et qui sont considérés comme étant de grande qualité.
Eh ben oui, c'est bien. Il faut, il faut mettre le défi. Puis moi, je suis quand même je suis un dinosaure. Moi, je crois que il y a un côté quand Griffith écrivait dans une de ses dernières lettres que le cinéma ne savait plus filmer le bruit du vent dans les branches. Il avait à peu près compris tout, quoi. Non, mais c'est je suis pas du tout, désespéré par rapport au. Puis c'est là, c'est pour venir à Marseille parce que moi, je vis dans un endroit.
Mais les étudiants que vous voyez à San Diego, ils font quoi alors comme cinéma?
Non, ils font des tas de choses. Ils font des tas de choses un peu surprenantes. Ils réinventent le cinéma parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Quand j'ai commencé à faire tout, un gosse de 20 ans maintenant a dans les mains des choses qui, de mon temps, quand moi j'avais 20 ans, c'était de la science-fiction, penser au digital, etc. Et puis c'est des gens qui n'ont pas en fait une formation qui vient du cinéma, alors que le cinéma c'était le grand truc de ma génération. Ce sont des gens qui viennent au cinéma parce qu'ils ont une conscience marquée d'une part par la musique et en particulier le hip-hop et par l'ordinateur. Quand on regarde un ordinateur, on sait que derrière l'écran, il y a un autre écran, et un autre écran, et un autre écran. Donc, on n'a plus l'idée qui était l'idée de ma génération, que l'image, ça avait une espèce de solidité. Alors, c'est des gens qui sont spontanément intéressés à faire du passage, du travail, au montage, etc. C'est-à-dire des gens qui peuvent comprendre ce que le groupe Ziga-Vertov essayait de faire. Donc, je suis pas mal, moi. Je me sens assez jeune, moi, en ce moment.
Alors, en parlant du groupe Ziga-Vertov, il y a deux écrans parallèles pour cette 19e édition du FID. Une avec le groupe, avec des films du groupe Zanzibar.
Ouais.
L'autre avec Robert Kramer. C'est des gens que vous avez connus, côtoyés, appréciés.
On se connaissait ouais. tous, ouais. On s'insultait tout le temps. C'était formidable. Non, mais enfin, c'était ça. En particulier, c'était ce moment un peu béni où il se passait des tas de choses et qu'on était intolérants. Moi, j'ai quand même une vie formidable. J'ai commencé comme un jeune con et je finis comme un vieux con. C'est fade. Je veux dire que les gens aient vu les films du groupe Ziga-Vertov et ont pensé que c'était du catéchisme maoïste, c'est parce qu'ils voulaient le penser. C'était ça, puis c'était autre chose. C'était de penser au cinéma, c'était d'essayer de savoir comment on pouvait l'inventer, le réinventer, etc. Bon, enfin, c'était pas si mal, cette période.
Donc, pour revenir à aujourd'hui et à cette 19e édition, donc, 7 films, L'Amérique vue par Jean-Pierre Gorin, et 3 séances.
Ouais.
Alors, quelles sont ces séances? Je peux dire les titres, puis alors vous me dites deux mots dessus. A sail is a sail is a sail.
Quoi? A sail is a sail is a sail.
Excusez mon accent américain.
Ah oui, faut vous y mettre quand même, hein, l'anglais. A sail is a sail is a sail, ben c'est la vente, quoi. C'est le VRP, c'est l'idée d'une culture qui a été fondée non pas sur l'amour des Grecs, mais sur l'idée qu'il fallait vendre.
Donc deux films, un Laurel et Hardy et l'autre des vendeurs de bibles.
Laurel et Hardy, parce que Laurel et Hardy, c'est les seuls cinéastes marxistes. Et l'autre, bah, c'est un grand, grand film des Maisel Brothers qui ont été, à ce moment où l'apparition du 16, du Nagra, la matrice esthétique des couvertures de Time Life, à un moment donné où la fiction était un peu bloquée et bon, on relançait les choses. C'est eux, c'est Penny Baker, c'est Ricky Leacock, c'est tous ces gens-là, quoi.
La seconde séance s'appelle, je m'excuse par avance donc de mon accent américain lamentable, The Way It Come Went. Et là, il y a un seul film.
Vous me surprenez parce qu'il faudrait que je relise mon truc. C'est quoi?
C'est la séance où il y a The Last Cowboy.
Ah ouais. C'était l'idée d'au départ. Il y en a un que vous oubliez, c'est Monsieur Ford, qui est quand même un personnage mystérieux parce qu'on comprend pas. Ce qu'il y a d'étonnant chez Ford, c'est qu'à la fois c'est le mythe, et puis c'est le mythe qui permet de recréer le documentaire. Alors, c'était un devoir de prendre un film comme My Darling Clementine et puis de voir ce qui se passe avec les cow-boys. C'était un film que les Américains n'ont pas vu du tout. C'est un film d'un type qui a énormément de talent. Ça a été filmé pendant une période de 20 ans. Et c'est une famille de cow-boys dans le South Dakota.
Dans le
Dakota du Sud.
Merci.
Monsieur, le Dakota du Sud. Et il y a des scènes...
C'est pas la famille de George Bush, donc.
Non, c'est pas ça. Il y a des scènes dedans qui sont comme ça, du pur John Ford, c'est magnifique.
J'hésite à dire le titre de la troisième séance.
Allez-y, risquez-vous.
The Bedrock, Shaky.
Bah oui, c'est l'idée que c'est deux choses, quoi. C'est la famille, et la famille comme bedrock, c'est-à-dire comme fondation, et puis le fait qu'elle a toujours été, une... Un lieu de bataille. Et c'est un film de McCarey qui est absolument hallucinant, qui s'appelle Pass the Gravy, donc passez-moi la sauce. Et c'est une famille, c'est une espèce de destruction d'une famille autour d'un poulet. Je vous le conseille fortement.
C'est la prochaine projection a lieu quand? Vous l'avez en mémoire?
Je ne sais pas, c'est mercredi. Et puis il y a Les Exilés, qui est un film magnifique, qui est une histoire d'Indiens qui passent une nuit, et qui sont venus de l'Utah vers Los Angeles, et qui passent une nuit à Los Angeles. Et c'est un des grands, grands films sur Los Angeles.
Donc, une dernière question, peut-être détachée de cet écran, peut-être pas. Enfin bon, est-ce que là, il y a eu des grandes commémorations autour de mai 68? Vous avez été un des acteurs de mouvements artistiques importants à cette époque-là. Vous avez suivi un peu, ça vous a intéressé?
Vous déconnez ou quoi?
Bah, je sais pas.
Non, je veux dire, l'idée de cette espèce de célébration qui ne fait que répéter cette légende et la manière dont les choses ont dû... Non, c'est pas intéressant, quoi. Je veux dire, pourquoi, de toutes les façons, les monuments, c'est fait pour... je sais pas. Non, ça n'a aucun intérêt pour moi.
Merci Jean-Pierre Gauvrin. Alors, Pass the Gravy sera projeté le samedi 5 à 10h à La Criée. Voilà. Le prochain, il sera également projeté le lundi 7 à 13h30, également à La Criée. Aux variétés. Merci. Merci Jean-Pierre Gauvrin. Juliette, tu es venue nous présenter une chronique technique. C'est une chronique technique, je crois, qui est passée déjà à 16h30, qui passe à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi sur les 3 à 8 à 16h30. On va en entendre un petit bout. Alors, qu'est-ce que c'est, chronique technique?
Bah, en fait, c'est surtout des entretiens que j'ai eus avec des réalisateurs ou des techniciens qui travaillent dans le documentaire pour essayer de comprendre un peu la différence de leur métier à tous, différence entre la fiction et le documentaire. Donc la première, c'est sur la réalisation, donc ça touche un peu tous les métiers. Donc je suis allée voir Christine Tépénier qui a réalisé Petite et Grande Soustraction. Et sinon, les autres, demain, on aura La Lumière avec Michel Dunant qui est chef opérateur. Vendredi, on parlera du cadrage avec Suzelle Roche qui est réalisatrice et qui était journaliste à France 3. Et samedi, on aura du son avec Alain Mathieu. Et enfin, dimanche, on aura du montage avec Sandra H. Donc, c'est un peu tous les métiers du cinéma. Voilà.
Putain, mais avance vers la droite, vers la gauche. Mais non, je t'ai dit vers la droite!
La chronique technique du docu.
Tout de suite, on écoute Christine Tépénier qui va nous parler de la réalisation. Comment on écrit un scénario d'un documentaire?
En général, on a une idée dans la tête. Quand on est un projet personnel, on a une idée dans la tête. Et on va essayer de rencontrer des personnes qui peuvent nous en dire plus. En fait, pour moi, il y a une définition, en gros, de la réalisation d'un documentaire. C'est, je pense que c'est... Je pars de quelque chose, en fait, que j'ignore. Un sujet que j'ignore, et à la fin je pense que je suis un tout petit peu plus éclairée sur le sujet et j'essaye en fait d'être un peu plus intelligente en quelque sorte. Et c'est ce processus là, c'est comment tu fais pour te renseigner, mais pas comme les journalistes, vraiment en y allant à l'intérieur pour observer et regarder comment ça marche, quoi. Ça part en général d'une rencontre que je fais, soit avec un sujet, mais en général qui est quand même très incarné, soit avec effectivement une personne qui à mon sens est porteuse de quelque chose qui la dépasse et qui peut intéresser d'autres, dont moi, la première. il y a dans la réalisation documentaire quelque chose qui est vachement important, qui est le travail en équipe, qui est l'espace de travail que peut être un film, en fait. Le réalisateur, c'est peut-être la personne qui coordonne le tout, ou qui a lancé l'impulsion, ou qui va aller jusqu'au bout de cette affaire-là, en tous les cas, mais pas seul. Bien évidemment que c'est moi qui choisis qui je filme, bien évidemment c'est moi qui choisis le sujet, bien évidemment c'est moi qui le pense, mais pas seul. En fiction, on travaille pas seul, mais on travaille pas seul au niveau de la réalisation technique, en quelque sorte. Avant, on est quand même plus solitaire, je trouve.
Donc, comment vous envisagez-vous la réalisation d'un documentaire ?
Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les gens que je filme. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir une relation avec eux. Parce que si je n'ai pas de relation avec eux, je n'arrive pas. C'est là où j'en suis. Hein. Je pense que, pour le moment, je ne sais faire filmer, par exemple, que des personnes avec qui je suis à peu près d'accord ou que j'aime bien. Pas des personnes que j'aurai ensuite à critiquer dans le montage, en quelque sorte. C'est pas tellement ça mon truc. C'est du travail, ce qu'on appelle en immersion. Donc, gagner une confiance, prendre du temps et travailler au long cours avec la personne qui sait qu'elle est filmée et qui va continuer ses activités que je vais suivre.
Est-ce qu'il y a une notion de mise en scène ?
Oui, forcément. Il y a forcément une idée de mise en scène. Soit parce que la question qui est posée dans le film porte en elle-même sa mise en scène. Par exemple, dans le cadre de la pauvreté, les travailleurs sociaux travaillent de part et d'autre d'un bureau. Donc, ils reçoivent des gens de l'autre côté du bureau. Et là, on est bien obligé de se demander où on va se mettre et pourquoi. Pour garder cet exemple-là, moi, je n'ai pas voulu me mettre du côté de l'assistante sociale. Je me mets en face. Donc, évidemment, c'est contraignant, mais évidemment, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire que je suis à la place de celui qu'elle reçoit, ou je suis juste à côté. Ça peut être des choses comme ça, de la mise en scène. C'est presque du cinéma animalier, même si c'est des personnes qu'on filme. C'est ça le travail d'un réalisateur. C'est essayer de trouver la manière, en tous les cas, qui me correspond pour parler de quelque chose. Effectivement, c'est pas comme du journalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée d'objectivité. Il n'y a aucune idée d'objectivité. Moi, je ne crois pas à l'objectivité. C'est, pour moi, ça n'existe pas. Donc, effectivement, dans le travail de documentaire, il y a précisé sa propre conviction par rapport à un sujet, à mon sens. Pour moi, le documentaire, c'est aussi une catégorie qui existe à peine, quoi. Il n'y a pas de règles. Il y a des personnalités qui, à un moment donné, ont eu quelque chose à dire et fait des films magnifiques, encore aujourd'hui. Voilà. C'est plus ça. Moi, j'aime en fait le cinéma où les personnes font des films parce qu'elles ont envie de nous raconter une histoire, quoi, réelle ou inventée. Donc moi, c'est pareil, j'essaye de raconter une histoire quand je fais un film, réel ou inventé.
D'accord.
Voilà, c'était la chronique technique de Juliette que vous pouvez écouter en intégralité tous les jours entre le 2 et le 7 juillet à 16h30 sur Radio Grenouille. Xavier, tu es allé voir donc une série de films sous le titre Europe et tu vas nous en dire quelques mots, je crois.
Le premier volet de l'écran parallèle Europe. L'Europe. Ce 2 juillet 2008 à Marseille était décidément placé sous le signe de l'Europe. Au palais de la Bourse avec les patrons de l'Euro-Méditerranée sous le patronage du patron de la République et au FID dans un registre sensiblement différent. Avec la première projection dans l'écran parallèle intitulée « Traduire l'Europe » programmée par Sirka Müller. 4 films composaient ce premier volet. Europa 54 degrés 54 minutes 25 degrés 19 minutes. Ce sont les coordonnées géographiques du centre de l'Europe, situé en Lituanie, et le titre du film du lituanien Diamantas Narkevicius. Un film qui nous entraîne dans une visite d'une ville qui pourrait être partout et d'un centre qui a l'air d'être nulle part. Du centre vers les périphéries et les frontières, Remote, du néerlandais Martin Brandt, questionne l'identité d'une Europe dont l'intérieur ne vaut que par la multitude des extérieurs qui la composent et qui la regardent. Au-delà des frontières, dans un espace sidéral et sidérant, Constellation Bartleby, de l'espagnol Andrés Duque, fait la navette entre science et fiction, entre réel et imaginaire, Barthelby l'écrivain, personnage d'une nouvelle atypique d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, donne ici son nom à une constellation de livres inconnus qu'un astronaute découvre. Le film d'Andrés Duque articule avec humour et habileté les mirages de la conquête spatiale et la réalité misérable d'une Terre en décrépitude, métaphore peut-être de notre vieille Europe dont la technologie et la culture ont bien du mal à masquer le déclin. Enfin, We Went to Wonderland de la chinoise Xiaolu Guo joue des regards croisés entre l'Europe et la Chine en filmant ses parents venus lui rendre visite en Angleterre où elle s'est établie. Au prétendu choc des civilisations, Xiaolu Guo substitue une série de décalages et de malentendus, un regard doux amer, attendri et distancié, comme quand le vieux monsieur muet, qui ne s'exprime donc qu'en idéogramme, écrit ceci sur la tombe de Karl Marx, « Les fleurs sont fanées ». Eh oui. Prochaine diffusion de ces films, vendredi 4 juillet à 12h45 au CRDP, rendez-vous des quais. Et second volet de cette programmation Traduire l'Europe, demain 3 juillet à 10h30, toujours au CRDP, avec 4 nouveaux films.
Merci Xavier. Donc ce programme Traduire l'Europe, c'est Circa Müller qui vous l'avez élaboré. Donc pourquoi ce titre Traduire l'Europe?
Well, your audience will realize now that I speak English. I'm actually German and part of how the program developed was out of discussion with Jean-Pierre M about films, and we constantly talk about films and we try to explain what we think about films all the time, so translation was an obvious theme that was there.
On se rend compte maintenant que je parle en anglais, je suis en fait d'origine allemande, et le thème de la traduction est venu à travers des discours que j'ai avec Jean-Pierre M, et c'est venu tout seul.
And the film that has just been described to you, Europa 54 degrees, by Demantas Nakevitsius that you just heard about, was one of the starting points of the program. Lithuania is allegedly the center of Europe, and it was interesting starting from this film to go around and see what else is there. Is the center, is it important where the center is? How can we translate, or how can we understand more about this Europe?
Donc le film qui vient d'être décrit, donc Europa de Deimantas Narkevicius, ça se trouve en Lituanie, qui est soi-disant le cœur de l'Europe. Et c'est à partir de là qu'on a découvert ce qui se passe plus loin et de mieux comprendre et traduire donc cette idée de l'Europe qui est partie de Lituanie et partie plus loin.
Il n'y a pas tous les pays européens représentés dans cette programmation, je crois.
No, it's not a representative program in that sense. We didn't go ticking boxes and saying, oh, we have to have all the countries in there. It really developed from finding films, finding interesting films. One film leads you to another film. You decide that this is a film you want to have in the program, so you have to find something else that corresponds with it. Of course, you know, we were interested in getting lots of different views, but it was not a, oh my God, I mean, there's lots of countries we don't have, lots of regions we don't have, but this is not what it is about having a list of countries that need to be ticked.
C'est vrai que tous les pays d'Europe ne sont pas représentés, mais ce n'était pas une question de cocher les cases. On a trouvé des films qui nous ont menés à d'autres et qui étaient intéressants pour la programmation. Et ces liens et ces regards différents, c'était ça qui nous intéressait plutôt qu'une liste de pays étrangers et le film qui représentait les pays.
Donc quels étaient vos critères de sélection des films?
I think one of the criteria was the approach of the filmmaker. Of course, when you go for a title that is translating Europe, you're interested in films that are looking at some of these
translation issues or the transposition issues as the film we went to Wonderland, the Chinese parents who come to Europe for the first time who have a problem in understanding that even translation is not gonna solve. So a lot. There were a lot of films, and we were surprised. I mean, we could have probably programmed in the selection we had plenty more films. It was in the end it was a question of space, of reducing it really. But the question was always how the filmmakers approach filmically and also emotionally this whole question. Not everybody goes out and makes a film about Europe as such, but they make a film about something that interests them. And for us, in the program, it was something that was seen as a, you know, it fitted in there, but it was not programmatic films about Europe.
Alors, un des critères de sélection, c'était l'approche du cinéaste. Donc, le thème de traduction est également de transposition. Et ce qui nous intéressait, c'était comme les parents chinois qui viennent en Europe, ils ont du mal à comprendre l'Europe. Ce n'est pas juste une question qui serait résolue par la traduction, mais aussi une façon de voir l'Europe. Donc, à partir de ces regards, il fallait bien sûr trier. La sélection était très vaste, mais la question clé était toujours l'approche et cinématographique et émotif du cinéaste. Et c'est comme ça qu'on a composé la programmation.
Qu'est-ce que ces regards de cinéastes donc sur l'Europe peuvent nous apprendre selon vous? Est-ce qu'il y a une vingtaine de films là dans cette programmation? Donc est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent un peu de l'ensemble de ces films qui...
No, I think there's a pretty wide approach, because if you know, we have 9 chapters that really try to cover different aspects, and I think it would be too easy to program something that just goes in one direction. I think for an audience it's more interesting to have different approaches and different ideas. There's a lot of films to be discovered in there. There's 30 films from 20 countries, and most of them are very new, some by directors that have never been seen here in France. So there's a lot of interesting things to be discovered.
La programmation est assez large. Je crois que c'est plus intéressant pour le public de découvrir non seulement des films qui mènent dans une seule direction, mais de voir plusieurs regards. Il y a effectivement 30 films qui venant de 20 pays, et dont certains sont des cinéastes qui n'ont jamais été vus en France. Et c'est justement ces regards différents qu'on voulait transmettre dans la programmation de la traduction.
À l'intérieur de cette programmation, il y a donc une place importante qui est faite au travail du cinéaste lituanien Deimantas Narkevičius. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce cinéaste et de son travail?
Deimantas Narkevičius didn't start as a filmmaker at first. He started as a sculptor and moved into films as a way of a different form of sculpture, really.
En fait, Deimantas Narkevičius, il a commencé comme sculpteur, et pour lui, le cinéma représentait une autre façon de sculpter.
And as I said before, his films were the starting point or the discussion point for composing the program, and they became more and more important, and in the end the decision was made to have them really centrally in the program. And it's very interesting when you were talking about the red the flowers on Marx's grave that are withering, because at the end of the program we'll have another film by Deimantas Narkevičius called The Head, that is about Karl Marx and his picture in Chemnitz in Germany. So there is, you know, there is a lot of relations between the different films, some that are more obvious and some that just happen afterwards.
Oui, alors on attend la traduction et après... Attends.
Le départ donc, de notre programmation était effectivement ce cinéaste lituanien et à travers nos discussions, son rôle dans le cinéma a pris de l'ampleur et parlons des fleurs fanées sur le tombeau de Marx dans un film qui serait diffusé pendant le film The Head. Ça part de son image en Allemagne et parfois les liens sont venus du hasard et parfois plus précisément comme ceci.
À Sophia Müller, est-ce que le fait que Diamantas Narkevičius soit lituanien, c'est-à-dire d'un pays qui est situé au centre de l'Europe, on l'a bien compris, entre l'Ouest et l'Est, entre deux éléments qui ont autrefois été des blocs, antagonistes, est-ce que ça a été aussi un des éléments du choix privilégié de cet auteur, de ce réalisateur?
Definitely that was one of the. I mean. Initially, when doing the first research, the interest was in Eastern Europe, and then it kind of broadened from there because there were a lot of films that were resonating with each other, and it became throughout the research he became a more and more central figure really.
Que au départ, on était dirigé plutôt vers l'Europe de l'Est, et à partir donc de Lituanie et le fait que Diamantas Narkevičius est devenu central à la programmation, on a recentré les choix de films.
Oui. Alors merci. Non, des petits échanges avec le technicien parce qu'on approche de la fin du plateau. On va passer un petit bout de musique et juste après, on se retrouve pour terminer ce plateau en direct au Théâtre National de Marseille-la-Criée à l'occasion de la 19e édition du Festival International du Documentaire. Les Coco Rosie, donc on interrompt parce qu'on est un peu en retard sur le timing de l'émission. Donc les Coco Rosie, je dis quand même qu'ils seront en concert le 23 juillet dans les Voies du Gaou et que c'est un concert à ne pas manquer. Alors Nathalie Guimard va nous parler de l'écran parallèle des Sentiers et ensuite Jean-Marc Lamour nous dira deux mots du film qu'il a vu de la fille de Robert Kramer cet après-midi. Alors, Nathalie, c'est la troisième année que vous montrez des films dans le cadre du Festival International du Documentaire, mais Fotokino montre des films toute l'année à Marseille, des films qui, pour porter sur le monde le regard de l'enfance. Qu'est-ce que ça change de montrer des films dans le cadre de ce festival pour vous ?
Bien, ça nous ouvre un champ plus élargi et ça nous permet de toucher un public qui viendrait peut-être pas toujours sur nos séances, tout en quand même gardant notre exigence au niveau de la qualité des films qu'on montre. Mais surtout, on a accès, grâce au Festival du Documentaire, à des films inédits. D'habitude, on programme quelques films inédits sur La Terna Magica et ailleurs, mais beaucoup de films de patrimoine souvent. Donc voilà, sur le Festival du documentaire, c'est une programmation ouverte au jeune public comme on le fait tout au long de l'année. Mais c'était une première pour le festival il y a 3 ans. Donc on a imaginé cette ouverture au jeune public ensemble. Et donc, on espère toucher un public plus large.
Ce sont des films qui vont être montrés, je crois, les 3 premiers jours à l'Alcazar et qui ensuite seront projetés dans les différents lieux du festival. Il y en a 8 en tout. Comment s'est construite la programmation cette année des sentiers ?
Alors, c'est toujours une alchimie entre des films qui sont arrivés au Festival du documentaire, présélectionnés par l'équipe de programmation, et puis des films de la cinématographie de Photokino. Voilà, donc des films anciens, des films récents, des films longs, des films courts, et tous les genres sont représentés. Donc voilà, films d'artistes, films patrimoine, films de fiction, films documentaires, films essais.
2 mots sur la projection qui a eu lieu aujourd'hui à l'Alcazar. C'était quoi ?
Alors c'était 4 films, 4 courts-métrages. Que vous n'aurez pas la chance de revoir en salle, mais il y a une vidéothèque, donc je vais en parler un petit peu. 4 films, donc Life, un film iranien, qui n'est pas un film de l'Institut Kanoun, mais c'est un film artistique et pédagogique. Le film Zoo de Bert Anstra, qui est un grand réalisateur hollandais, peu connu de nous, mais là-bas, il est 2e au box-office. Le 3e film, c'était Amomali, un film d'un Suisse, Fred Loret, qui nous permet de rencontrer des enfants qui bégayent et qui en plus fait un joli parallèle sur des images en noir et blanc magnifiques avec le poème de Gerasim Luka qu'on entend souvent sur la grenouille, passionnément. Et puis le dernier film, Michel le grand frère, c'était pour nous une occasion un peu sensible de parler de la différence. Enfin, tous les films d'aujourd'hui parlaient un peu de la différence, du regard sur l'autre. Et ce film-là nous faisait rencontrer 2 frères, dont l'un est trisomique, l'aîné. Et donc, comme on avait 2 centres sociaux qui sont venus, on a pu un peu avoir leur retour. Bon, bien sûr, qui était un peu dubitatif, mais je crois que c'est bien de montrer aussi ça à des enfants, surtout quand c'est filmé comme ça, comme l'a fait Eric Pinatel. Un portrait très sensible et qui parle de ça très simplement, avec beaucoup de légèreté, qui nous aide à voir la différence avec plus de simplicité, quoi.
Donc, combien de films à voir donc, dans ces sentiers jusqu'au 7 juillet ?
L'écran est composé de 16 films, 3 séances à l'Alcazar, donc jusqu'à vendredi à 14h30, 3 longs-métrages. Deux longs-métrages sont recommandés plus pour les plus de 10 ans, puisque je rappelle juste que les séances sont conseillées à partir de 6 ans. Une rediffusion de Flower in the Pocket, et voilà, une dernière séance le lundi 7 à la Canebière, 61 à la Canebière à 14h30. Je précise ça parce que sur le programme du festival, ces séances-là ont été oubliées. Donc consultez bien le programme des sentiers.
Merci. Merci Nathalie d'avoir fait vite pour ces sentiers. Désolée d'être un peu à la bourre. Alors je propose qu'on termine avec la chronique de Jean-Marc Lamour. Et vas-y Jean-Marc.
Bonsoir et quelques mots juste sur le film Les yeux l'un de l'autre, le film de Keja O'Kramer, la fille de Robert Kramer, du cinéaste américain Robert Kramer. C'est une co-réalisation qu'elle fait avec Stephen Doskin, qui est un cinéaste assez incroyable, qui est souvent cantonné dans le ghetto expérimental, mais qui est vraiment un grand grand bonhomme. C'est une très belle introduction. C'est un film donc qui est proposé dans le cadre de la rétrospective consacrée à Robert Kramer, Le geste vidéo, et c'est une introduction intime et extrêmement sensible à l'œuvre de ce cinéaste. C'est un film sous forme d'enquête, une enquête au sens policier du terme, avec des indices mais pas d'évidence. C'est un film en forme de puzzle. Un film sur une mémoire en pièces détachées que Keja O'Kramer essaie de reconstituer. Alors elle rassemble des éléments très disparates, des bandes audio qui sont des courriers sonores que son père lui adressait, des carnets de route ou de tournage, des photos de famille, des images d'une maison, une maison de famille. Et puis des images vidéo des obsèques de Robert Kramer et des extraits de ses œuvres également. Et puis on a aussi des images qui sont des silhouettes, des objets symboliques. numérique et les silhouettes, on reconnaît la silhouette de Robert Kramer qui glisse sur les murs et passe à travers des portes. Et donc toutes ces images dont le statut, ces images assez disparates, dont le statut aussi finalement entre le rêve et le vécu. On ne sait pas si on a affaire à des souvenirs fantasmés ou à des souvenirs réels. Au final, on assiste peut-être à une sorte de rituel, un rituel poétique au travers duquel Keja O'Kramer cherche à donner une place, à trouver une place aux côtés de la mémoire de son père. Ce film est rediffusé le jeudi 3, c'est-à-dire demain, au CRDP, boulevard d'Athènes, à 17h30.
Merci Jean-Marc. Jean-Marc, que vous pourrez retrouver à peu près tous les soirs lors de ce magazine en direct du Théâtre National de Marseille, La Criée. Je vous dis au revoir en vous signalant que ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture avec la projection du film Le silence avant Bach de Perret Portabella, que demain, le magazine sera animé par Xavier Thomas et qu'il recevra Raya Martin qui a réalisé Possible Lovers, Miguel Gomez qui a réalisé ce cher d'août et Pierre Créton qui a réalisé deux films qui sont projetés, L'heure du berger et Les vrilles de la vigne. Il y en a d'ailleurs un qui est projeté dans l'écran des sentiers de Photokino. Et il y aura également une interview de Marc Scialom. Le feed sur la grenouille, c'est pas fini pour aujourd'hui. À 21h et à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi, des diffusions de documentaires sonores sont proposées par Étienne Oiseau et Florian Pochon de l'atelier de création de production sonore Euphonia. Et ce soir, ce sera le documentaire Entre création et exil de Maxime Coton. Je crois que je vous ai tout dit. Si j'oublie quelque chose, Tony, qui est le technicien que je remercie beaucoup pour sa patience, ne m'en voudra pas trop. Et Xavier me montre un dernier quoi. Et le site de la grenouille où vous pourrez réécouter ce magazine de façon peut-être un peu plus sereine, www.grenouille888.org. Merci à tous.
With TV, you can't even think of something different. With movie,
non,
you
can. Sento dentro di me una strana agitazione.
Une science, une petite médiation.
Michel, vous voulez parler de qui elle est? Qui elle est? Bon? Vous pouvez dire qui de qui?
Ah, mais c'est quoi?
De qui?
Qui est que bien mi tamni? Pourquoi ils sont bons?